sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 1er décembre 2011, l'Académie française faisait sa rentrée solennelle sous la coupole de l'Institut de France. À cette occasion, Angelo Rinaldi, directeur en exercice, a procédé à la remise des nombreux prix littéraires décernés par l'Académie française pour cette année 2011. Ensuite, c'est Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui a prononcé un discours intitulé « Chateaubriand et Napoléon ». Il y a deux siècles, François-René Chateaubriand était élu à l'Académie française. Élu, mais jamais reçu sous la coupole. Hélène Carrère-Dancos explique brillamment les relations entre l'écrivain et Napoléon, qui fut responsable de cette élection ratée. Ensuite, Canal Académie retransmet le traditionnel discours sur la vertu, tenu cette année par Pierre Rosenberg. Écoutez dès maintenant le discours d'Angelo Rinaldi, suivi des prix littéraires décernés par l'Académie française.
La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Angelo Rinaldi, directeur en exercice, pour la lecture du palmarès.
Mesdames et messieurs, au seuil d'une liste de noms qui pourrait à la fois sembler riche et longuette, comment ne pas penser à Oscar Wilde, de notre voisin de rue d'ici, ou à l'hôtel d'Alsace, dans son exil, il soupirait « L'Angleterre a eu ma peau, la France aura mes os ». Il avait effectué une tournée de conférences aux États-Unis. Son sujet, sa propre personne et son œuvre. Mais on se lasse de tout, même de parler de soi, bien que notre vie ne soit au fond qu'une rumination intérieure sans fin. Assez vite, Oscar substitua son thème d'élection à son thème un inventaire de l'histoire des lettres dans son pays, indifférent à la chronologie, sautant sans le dire d'une époque à l'autre, les écrivains surtout saisis par l'aspect aventureux de leur vie ou par d'exemplaires malheurs. Car, vous le savez, souvent l'artiste ressemble au kamikaze qui saute avec sa bombe. Il n'était pas rare, donc, que dans quelques granges de l'Idaho ou du New Jersey, devant un parterre de vachers, en français des cove-bois, comme vous le savez, un Lucky Luke de la localité, les pieds sur le dossier de la chaise de son voisin de devant, s'écria avec transport « Celui-là, pourquoi ne l'avez-vous donc pas emmené avec vous ?» Emmené Byron, fauché par la maladie quand il était en route vers la bataille de Missolonghi, par laquelle commence peut-être la dette grecque. À l'égard de l'Europe, difficile. « Désolé, il est mort », répondait Wilde. Aussitôt, d'un autre coin de la salle, fusait la question qu'il a descendue. Par bonheur, ici, aujourd'hui, nous n'avons à citer que des vivants, bien vivants et pleins de talent, qui, chacun dans son domaine, et parcourant tout le clavier de l'écriture et de la pensée, témoigne contre le pessimisme à la mode de la vitalité de la langue française. On m'excusera si tel un moine effectuant pour ses frères une lecture au réfectoire, j'adopte et ennuie par un ton monocorde. C'est le souci que ressortent mieux les louanges de mes confrères, qui, je vous l'apprends, consacrèrent à la rédaction des rapports et à l'assouvissement de leur curiosité, maintes séances de travail, nous les en remercions. Les en remercions avant de rappeler le mot de Bernanos, si cher au cœur de Monseigneur d'Agence, « Ne vous mettez pas trop en avant, c'est au premier chrétien que l'on envoie le plus gros des lions. » Avant de rappeler la courtoisie de Wilde déclarant toujours en préambule que ce qui ronfle veuille bien ne pas réveiller ceux qui dorment. Commençons. Selon le rituel, mesdames, messieurs, les grands prix qui voudront bien se lever à l'appel de leur nom ne seront applaudis qu'à la fin de leur éloge mérité. Le Grand Prix de la francophonie est attribué à M. Abdelatif Lahabi. Pour ce grand écrivain et poète marocain que nous présente Hélène Carrère-Dancos, le français n'a pas été seulement une langue d'étude, puis la discipline qu'il a enseignée à l'université de Rabat, avant d'être emprisonné de 1972 à 1980, et dans quelles conditions. C'est surtout la langue par laquelle peut à la fois s'exprimer une parole libre et s'inventer au Maroc une nouvelle identité culturelle dont la modernité va de pair avec la transmission d'une culture. Cette ambition a été à l'origine de la revue Souffle, qui a réuni peintres et jeunes poètes et a joué, à partir de 1966, un rôle important dans le renouvellement culturel au Maghreb. Elle se déploie aussi dans une œuvre poétique aujourd'hui reconnue comme majeure à notre époque. Le souci d'un renouveau intellectuel préside encore au projet d'Abdelatif Lahabi, soutien d'un institut de la mémoire culturelle contemporaine au Maroc. Toute son œuvre et son action témoignent ainsi d'un engagement inlassable dans ce qui est bien, selon le titre de son dernier livre, un combat pour la culture. Grande médaille de la francophonie à Darius Chayegan, qui me pardonnera de peut-être mal prononcer son nom. Qui mieux que lui méritait la médaille de la francophonie ? Non seulement l'œuvre de ce grand philosophe iranien est souvent écrite dans notre langue, remarque Jean-Marie Rouard, mais il a des sympathies si profondes avec notre culture qu'on pourrait le prendre pour un écrivain français. Cette attirance pour notre civilisation de la part d'un homme très attaché à son identité et à sa culture est d'ailleurs un des thèmes de sa réflexion. Ses livres traitent souvent de cette schizophrénie culturelle que représente pour les Orientaux l'existence de la pensée occidentale. Comment accepter son influence, s'enrichir à son contact sans pour autant perdre l'arme de sa culture d'origine ? On admire, dans un monde débordé par les fanatismes, le talent d'un philosophe qui allie, dans une si belle langue, l'intelligence et la tolérance. Grand prix de littérature, Jean-Bertrand Pontalis pour l'ensemble de son œuvre. Avant d'être reconnu comme un écrivain, Jean-Bertrand Pontalis a été d'abord célèbre comme psychanalyste. En vérité, chez lui, la psychanalyse et la littérature sont si proches qu'elles finissent par se confondre. Jean d'Ormesson retrace son parcours. À l'origine, il est philosophe, proche de Sartre et de Merleau-Ponty, mais bientôt, la psychanalyse avec Lacan le saisit. Il se consacre notamment au célèbre vocabulaire de la psychanalyse qui a servi depuis d'instrument de travail à d'innombrables générations d'écrivains. Autre événement dans sa vie, son entrée au comité de lecture des éditions Gallimard en 1979. Il y crée la collection « L'un et l'autre ». Puis pénétrant pour son propre compte dans la carrière littéraire, il écrit et publie en 30 ans, une bonne quinzaine de livres à la fois délicieux et savants. C'est désormais à un grand public cultivé, de plus en plus séduit par sa modestie et son talent qu'il s'adresse. Sans cesser d'être psychanalyse, Jean-Bertrand Pontalis est devenu cet écrivain en renom auquel notre compagnie est heureuse de décerner son grand prix de littérature. Grand prix de littérature Henri Gall, en d'autres termes prix de l'Institut de France, il est attribué à Yasmina Kadra pour l'ensemble de son œuvre. Romancier algérien de langue française, traduit dans une quarantaine de pays et salué dans le monde entier, Yasmina Kadra est l'auteur d'une œuvre importante. Parmi elles, Jean d'Ormesson distingue ce que le jour doit à la nuit, une saga qui se déroule de 1930 à nos jours et présente une courageuse défense de la double culture franco-algérienne ainsi qu'une ambitieuse trilogie politique autour des conflits du Moyen-Orient. Citons les hirondelles de Kaboul, l'attentat, les sirènes de Bagdad. Yasmina Khadra est un moraliste de notre temps qui, dans un style vif et efficace, explore depuis une douzaine d'années l'histoire contemporaine et l'affrontement meurtrier entre Occident et Orient. Il se bat sans trêve en faveur d'un dialogue entre les peuples et entre les cultures. Il milite sans répit pour le triomphe de l'intelligence et de l'humanisme. Le prix Jean-Jacques de Fouchier à M. Francis Allais, botaniste, pour ses essais. À d'excellents développements sur sa spécialité, l'auteur ajoute des analyses proprement philosophiques et originales, en particulier sur les caractéristiques de la plante par rapport à celles de l'animal. La comparaison, vue de manière générale et théorique, permet de remettre en question la grande polémique entre Lamarck et Darwin, généralement tranchée par des zoologistes peu au fait de botanique. Informée de manière complète, intelligemment documenté et admirablement écrit, parfois avec un humour joyeux. Ces livres ont enchanté Michel Serres, qui les recommande à toute personne cherchant à comprendre les questions touchant la vie et la biologie. Le Grand Prix du roman va à Sorry Chalandon pour Retour à Killyberg. Le grand reporter qui a couvert le conflit en Irlande du Nord l'explore de nouveau dans un diptyque romanesque. Dans Mon traître, rappelle Florence Delay, un jeune luthier parisien évoquait son vif attachement à un combat de l'IRA, un héros à ses yeux et son déchirement en apprenant que l'ami admiré était en réalité une taupe au service des Britanniques. Retour à Killyberg revient sur cette histoire. Le narrateur est passé de l'autre côté du miroir, c'est lui le traître. La force du roman est d'imaginer comment l'enfant misérable devenu jeune homme épris de la République, militant pour l'indépendance, passe de la figure de héros à celle de traître. Par quelle erreur qui se retourne en piège? Le vieil homme qui, à travers l'histoire de l'Irlande, voit défiler sa vie, nous fait entrer dans la douleur et sa perplexité. Il y eut un grand genre au XIXe siècle, le roman historique, qui donna le goût de l'histoire à bien des générations. Sorry Chalandon y adjoint le roman d'une conscience. Le prix de l'Académie française Maurice Genevoix va à M. Alain Borère, Le ciel et la carte, carnet de voyage dans les mers du Sud, à bord de la boudeuse. Le projet de ce livre est né d'une réalité, on ne peut plus, rimbaldienne, celle de la boudeuse et de son capitaine Patrice Franceschi, qui fait le tour du monde en 2 ans sur un fameux trois-mâts. Alain Borère est monté à bord et c'est son carnet de voyage qui embarque navigateur, marin d'eau douce, auteur, star hollywoodienne ou philosophe antique, avant d'embarquer en son tour le lecteur dans la virée d'un bateau qui a traversé le Pacifique dans le sillage des explorations de Bougainville. Mais, comme le souligne Gabriel Debreuil, loin de reprendre le même projet de créalisation de métissage, Le ciel et la carte cherchent plutôt à rabouter l'imaginaire de l'écrivain à l'imaginaire de chacun des peuples visités. L'ouvrage qui surgit de cette tournée est un collage poétique, un alliage chatoyant d'érudition cosmopolite, tout en contraste entre ciel tragique et mer devenue enfer comique, légèreté et profondeur, soif et terreur d'aventure. Le prix Hervé Deluen est attribué à M. Moussa Konaté, qui œuvre par ses ouvrages et son travail d'éditeur à la diffusion de la littérature francophone au Mali. Jean-Christophe Ruffin l'affirme, Moussa Konaté est le plus universel des écrivains africains contemporains par sa connaissance de la littérature française comme de la littérature mondiale, par sa langue classique, influencée par la phrase grecque, par son éclectisme qui lui a fait écrire du théâtre, des essais et aborder divers genres romanesques. C'est aussi un homme engagé qui s'est battu pour la diffusion du savoir des langues nationales de son pays, le Mali. Et après avoir quitté la fonction publique pour se consacrer à l'écriture, il a fondé à Bamako les éditions du Figuier, une des très rares maisons d'édition africaines indépendantes. Co-directeur du festival Étonnant Voyageur de Bamako, il lutte contre la marginalisation culturelle du continent africain. Le Grand Prix de poésie va à Franck Venaille pour l'ensemble de son œuvre. Le poète, selon la légende imaginée par Florence Delay, est né sur la plage de Stende, de la fusion entre la mer du Nord et le sable, et non à Paris. Question de géographie personnelle, comme si ce paysage, l'horizontalité de ses lignes, son peu de couleurs, lui correspondait bien. Il a accompagné le fleuve Esco, et de ce voyage initiatique, son voyage d'hiver en somme, il a tiré un livre essentiel, « La descente de l'Escaut ». Question d'histoire collective aussi, car la blessure ouverte dans le bled algérien ne s'est pas refermée. En témoignent Caballero Hotel, La guerre d'Algérie, Jack to Jack, pardon pour l'accent, trilogie reprise dans Algeria. Les engagements ultérieurs ont toujours été chez lui suivis de ruptures. Le PC, quitté après l'invasion de Prague, la revue Action politique, quittée pour la direction de la revue Chorus, celle-ci liée à des artistes dont le travail l'inspire, et elle-même abandonnée désormais pour un travail solitaire. Il participe ensuite à la création de cette fameuse revue poétique sonore que sont les Nuits magnétiques de France, de France Culture, mais je dis de France parce que tout le monde est à l'écoute. Interroger toutes les formes du réel, telle est la quête de Franck Venaille, dont l'œuvre est une des plus sincères, intenses, innocentes et violentes que nous offre la poésie contemporaine. Le Grand Prix de poésie à François Julien pour l'ensemble de son œuvre. La variété des sujets auxquels s'est attaché ce philosophe sinologue pourrait faire croire à une œuvre dispersée. Il y a au contraire, chez François Julien, une forte unité de pensée et de parcours. Pierre Nora la résume d'une formule. Pensée entre la Chine et la Grèce. Il s'agit en effet de réfléchir à l'impensé de notre pensée dont la Grèce a posé les fondements. Et pour ce faire, la Chine offre les moyens d'une prise oblique, une possibilité de nous retourner sur nous-mêmes et de nous considérer du dehors. C'est à la constitution de cette extériorité que s'attache d'abord François Julien, l'autre versant de son travail étant de revenir aux fondamentaux de la pensée européenne. À l'horizon de ces chemins l'attendent des questions générales qui nous intéressent tous directement. Y a-t-il un universel ? Que peut avoir en commun italique ? Quelle signification ont l'unité italique, la différence italique et la conformité italique ? En définitive, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue des cultures qui est au centre des préoccupations de ce philosophe et c'est ce thème constamment présent qui lui donne toute son actualité. Le Grand Prix Gobert à Michel Vinocq pour Madame de Staël et l'ensemble de son œuvre. La riche biographie de Madame de Staël s'ajoute à une œuvre importante que présente Pierre Nora encore. Consacrée à la vie politique et intellectuelle de la France contemporaine, elle se compose d'études sur les mouvements de droite et d'extrême droite, sur le nationalisme et l'antisémitisme, aussi bien que de livres sur la gauche ou sur les débuts de la Révolution. Elle s'intéresse aussi aux intellectuels retraçant tantôt la fresque de leur rapport avec la politique au XXe ou au XIXe siècle, tantôt traitant de sujets ponctuels. Plusieurs livres de chroniques et d'essais font par ailleurs voir à quel point Michel Vinocq entretient un rapport personnel, presque sensuel, avec l'histoire et l'identité nationale. N'est-il pas un des historiens généralistes les plus féconds et talentueux depuis René Raymond, dont il a hérité le sens de la synthèse, le jugement pondéré et le bonheur du style. Le prix de la biographie littéraire à Jean-Luc Barré pour François Mauriac, biographie intime, l'auteur ayant eu accès aux archives de la famille. Le livre s'impose d'abord par la richesse de sa documentation, nous dit Hélène Carrère-Dancausse. Il rend compte des tensions qui habitent l'homme tiraillé entre ses désirs et les préventions religieuses et sociales de son époque. Le journaliste engagé tiraillé entre ses choix politiques et les options de son milieu. Si Jean-Luc Barré souligne les rapprochements que l'on peut faire entre le malaise de l'auteur et les déchirements qu'éprouvent tous ces personnages, il se garde de faire de ce parallèle une grille de lecture simpliste de l'œuvre romanesque. Comme il maîtrise parfaitement l'art de la citation, il préfère par ce moyen s'effacer et donner la parole à Mauriac, à ses contemporains et à ses personnages. En raison du rôle éminent joué par Mauriac en son temps, et sous cette coupole, ajouterai-je, cette biographie est aussi un passionnant tableau de l'histoire littéraire et politique de la France du XXe siècle. Nous ne quittons pas l'histoire avec le prix de la biographie historique à Philippe Paquet pour Madame Chiang Kai-shek, un siècle d'histoire de la Chine. L'intention de l'auteur qui a accompli une partie de ses études en Chine, comme nous le rappelle Alain Decaux, a été de retracer, je cite, « un destin chinois d'exception ayant traversé un siècle trop méconnu ». C'est en effet une femme d'exception que Mai Ling, Chiang Kai-shek, fille d'un Chinois américanophile qu'il a envoyé faire des études aux États-Unis, polyglotte, féministe, qui se fait la voix de l'homme d'action peu éloquent qu'était son mari. Philippe Paquet n'exalte pas pour autant le rôle de l'épouse de Chiang Kai-shek, mais il nous convainc qu'il fut capital et parvient ainsi, loin de la géographie ou de la polémique, à établir le juste portrait d'une grande figure historique tout en retraçant une époque. Le prix de la critique à M. Tsevan Todorov, qui me pardonne si je prononce mal son prénom, pour l'ensemble de son œuvre critique. Bulgare, ayant choisi la France pour seconde patrie intellectuelle et le français pour langue d'expression, Tsevan Todorov s'est fait d'abord connaître par une anthologie des formalistes russes, théoriciens, dont se réclamait le structuralisme et la nouvelle critique française. Vite devenu l'un des chefs de file de cette jeune école, il fonde Poétique avec Gérard Genette et publie un essai devenu topique sur le genre littéraire fantastique. À partir de 1982, il s'arrache à la fascination de la théorie de la communication et redécouvre le sujet du discours, sa situation, son historicité, son dialogue avec l'étrangeté de l'autre. Rejetant la devise des structuralistes, l'homme est dépassé, il s'est donné la devise bien humaniste, l'homme est à délivrer et à éduquer. C'est la devise des Lumières, relève Marc Fumaroli, mais reprise sur le fond sceptique et tragique de l'expérience du XXe siècle. Dès lors, alternant essais de critique d'anthropologie et de critique d'art comme ce récent Goya à l'ombre des Lumières, Todorov s'est fait l'interprète, guillemets, d'un humanisme tempéré. Prix de l'essai à Sébastien Allard et Marie-Claude Chaud-Dorneret pour Le suicide de Gros, les peintres de l'Empire et la génération romantique. Les responsables du suicide d'Antoine-Jean Gros furent imputés, enfin leur responsabilité en tout cas, à la critique qui n'avait pas su comprendre son dernier tableau, Hercule et Diomède. Les auteurs de l'ouvrage dressent à ce propos un tableau très nouveau de la peinture française entre 1815 et 1835, évoquant les stratégies adoptées par Gros, Giraudet, Grain pour conquérir le pouvoir. David, Ingres, Géricault et Delacroix jouent en coulisses leur rôle. L'ouvrage, un petit chef-d'œuvre, renouvelle l'interprétation de l'épopée napoléonienne et de la prise du pouvoir du romantisme, parfaitement écrit. Il s'adresse aussi bien aux spécialistes, tel Pierre Rosenberg, qu'à un plus large public. Le prix de la nouvelle à Thomas Clair pour L'homme qui tua Roland Barthes. Thomas Clair déborde de talent, affirme Michel Serres, à qui je laisse la parole. Deux choses m'empêchent d'en juger avec une parfaite exactitude. Son obsession et son goût délicat de la mort, difficile à supporter pour un pacifiste de ma trempe. Ensuite, son style hyper original, hyper moderne, hyper branché jusqu'à l'émeritisme, pour moi au moins, qui ai dépassé d'un demi-siècle l'âge où l'on dit qu'on est dit, je crains, poursuit Michel Serres, qu'il ne se sente humilié de se voir couronné par une compagnie qui, à ses yeux, dépasse le comble de la vieillerie sotte. Il mérite néanmoins un prix de l'Académie qui est sans rancune. Prix d'Académie, mais pas refusé, à M. Albert Bensoussan pour l'ensemble de ses traductions. Éminent spécialiste de l'Espagne, comme le rappelle Pierre Rosenberg, Albert Soussan a publié plusieurs romans et études, articles aussi, et l'on retiendra un essai remarquable intitulé « J'avoue que j'ai trahi » et sous-titré « Essai libre sur la traduction ». C'est le traducteur impeccable, notamment de l'œuvre de Mario Vargas Llosa, que l'Académie française a souhaité, avec quel plaisir, couronner. Là, j'hésite, la prononciation su, Carrel, tant pis pour moi, pour son édition de la correspondance de la comtesse de Sabran et du chevalier de Boufflers. Correspondance inédite qui s'étend de la fin de l'Ancien Régime à l'Empire, indique Marc Fulmaroli. Sucarel, qui en a fait l'acquisition et en propose l'étude et l'édition savante, nous a révélé un chef-d'œuvre de notre prose et appris qu'en dépit de sa légende libertine, le XVIIIe siècle français a été une époque de grandes passions amoureuses. Alain Lotin pour son édition de Chronique Mémorial des choses mémorables par moi, Pierre-Ignace Chavat. Il s'agit du manuscrit d'un tisserand lillois auquel Alain Lotin avait consacré sa thèse et que ses importantes charges administratives à l'université avaient empêché d'éditer jusque-là. À l'instar d'Alain Decaux, originaire de Lille, nous pouvons désormais nous retrouver avec bonheur au XVIIe siècle, au sein de la vie quotidienne de cette belle ville. Annette Vievorka pour Maurice et Jeannette. Vous avez compris, Torres certainement. Biographie du fameux couple Torres. À travers le couple, l'ouvrage fait apparaître toute une génération de militants communistes et de dirigeants staliniens. En croisant deux vies, il a le grand mérite, au jugement d'Hélène Carrère-Dancausse, de rétablir le poids historique de Jeannette Vermersch et de présenter un Torres inconnu, soucieux d'apprendre, étudiant même le latin, ce qui est, en définitive l'humanise beaucoup. Le prix du cardinal Grant au révérend père Bernard Sesbouet pour l'ensemble de son œuvre. Le père Sesbouet, si je prononce bien, Merci, mon père, est un grand théologien dont l'œuvre présentée par Monseigneur d'Agens est pour l'essentiel consacrée au mystère du Christ et de l'Église. Auteur d'une thèse sur Basile de Césarée, il a mené de pair l'étude patristique et la réflexion approfondie sur le Christ et sur le mystère de la Trinité. Tout en composant une œuvre de théologien fondamentale, le père Sesboué illustre la grande tradition jésuite en confrontant sans cesse la réflexion catholique aux questions les plus vives de la pensée contemporaine dans des entretiens aussi bien que des essais clairement apologétiques. L'Académie française honore ainsi un véritable penseur chrétien, un théologien infatigable et courageux, dont l'œuvre considérable, écrite dans une langue claire et compréhensible, mérite d'être davantage reconnue. Le prix du théâtre à Denise Chalem, tout ensemble auteur, metteur en scène, comédienne, Denise Chalem, qui fut l'élève d'Antoine Vitesse, est aujourd'hui une dramaturge traduite dans de nombreuses langues. Elle s'est notamment fait connaître par des œuvres telles que « À 50 ans, elle découvrait la mer » ou « Dis à ma fille que je pars en voyage ». Sa dernière pièce, « Aller chercher demain », qu'elle a jouée avec Michel Aumont, raconte l'histoire d'une femme partie à la recherche de la mémoire de son père, qui lui-même l'a perdue, et l'aide à approcher de sa mort. Oui, l'œuvre est d'une humanité bouleversante, note Jean-Louis Dabadie. C'est un titre un peu long, prix du jeune théâtre Béatrix Dussem, André Roussin. Il va à Alexandre de la Patellière et Mathieu de la Porte pour le prénom. Chacun disant à l'autre « Prête-moi ta plume pour écrire un mot », les deux auteurs ont écrit ensemble une comédie espiègle, et rien moins que vulgaire, selon Jean-Louis Dabadie, expert en la matière, c'est-à-dire le boulevard, qui n'est pas boulevardier et qui contredit pour une fois la devise de Feydeau, surprendre le public avec ce qu'il attend. Dans le prénom, un prénom justement, dont le choix fait exploser une famille, le public est surpris parce qu'il n'espère pas. Cinéma prix René Clair. Lorsqu'Yves Pouliquen évoque la bûche, décalage horaire, fauteuil d'un orchestre ou le code à changer, il réveille en nous l'agréable souvenir de quatre comédies qui nous enchantèrent par le ton, le regard sans complaisance porté sur nos contemporains et qui sont marquées d'un humour que Danielle Thompson, la fille talentueuse de Gérard Houry, a reçu et appris de celui qui sut faire rire la France entière. Aucune surprise donc de la retrouver scénariste de La Grande Vadrouille, de La Folie des Grandeurs et d'autres œuvres de son père, ainsi que de Molinaro, Chéreau, Pinotto et de bien d'autres. La grande médaille de la chanson française à David McNeil. Aux yeux de Jean-Loup Dabadie, David McNeil, né à New York, est depuis longtemps l'un des paroliers les plus féconds de la chanson française. Plusieurs générations d'artistes ont été ou sont ses interprètes, d'Yves Montand à Julien Clerc, Alain Souchon ou Jacques Dutronc. Également auteur de livres dont « Quelques pas dans les pas d'un ange » qui raconte son enfance avec son père, le peintre Marc Chagall. David McNeil doit aujourd'hui la grande médaille de la chanson française à ce que Charles Trenet appelait tout simplement l'âme des poètes. Le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française à Akira Mizu Bayahayashi pour une langue venue d'ailleurs. L'auteur raconte sa passion pour la langue française, passion qu'il a ensorcelée dans l'enfance par le biais d'émissions de radio et l'a habitué à sa musique avant de l'habiter jusqu'à le dépouiller en quelque sorte de ce qu'il y avait de japonais en lui sans pour autant le faire français. Nous ne pouvons manquer de saluer avec Michel Léon un livre de si grande importance dans l'histoire de la francophonie. Se prit encore sous le même pavillon l'association Gallica, qui assure en République tchèque la coordination des centres universitaires de formation des enseignants de français, des traducteurs et des chercheurs. Elle distribue également des bourses, organise des colloques et soutient les activités éditoriales en français. L'Académie, avec son secrétaire perpétuel, est particulièrement heureuse de lui apporter son appui. Toujours sur le même pavillon, Claudette Hould, spécialiste de l'art français, qui a travaillé aussi bien à l'Université du Québec qu'au Musée de Montréal, d'Ottawa. Pierre Rosenberg rappelle que ses travaux, qui font autorité, portent essentiellement sur la gravure et le dessin au temps de la Révolution. Claudette Hould a défendu dans notre langue et dans un pays à majorité anglophone l'art de notre pays et avec beaucoup de talent. Isabelle Donnet, professeure de langue et de littérature française à l'Université McGill de Montréal. Outre sa charge professorale, Madame Donnet dirige L'Inconvénient, une brillante revue francophone. Michel Déon et nous tous la remercions de son combat qui maintient des liens indéfectibles et fraternels entre le Canada et la France. Rokhaya Eugénie Ho, directrice du Centre d'études des sciences et techniques de l'information à Dakar. Journaliste et universitaire de nationalité sénégalaise, Madame Ho, revenue à Dakar, a mené un inlassable combat pour que le journalisme africain devienne professionnel. Jean-Christophe Ruffin souligne combien elle contribue de la sorte au rayonnement des valeurs de la francophonie, à une presse libre et responsable, qui pour elle est la condition fondamentale de la démocratisation des pays africains. Arrivent désormais les prix de fondation. Selon la tradition, les lauréats voudront bien attendre la fin de la proclamation pour se lever et recevoir nos compliments. Le temps qui nous est imparti nous obligera, hélas, à être bref. Prix Théophile Gautier, Jacques Jouet pour l'histoire-poème. Comme certains font feu de tout bois, Jouet fait poème de tout et ici de l'histoire. Le livre qui se met sous le signe de Tristan Corbière n'est pas sérieux, mais si l'on se prend au jeu, il devient captivant. Médaille de bronze du prix Théophile Gautier à Anis Kols pour « Je renaîtrai ». C'est une forme d'autopoésie de la vie, pourrait-on dire. De strophe en strophe, nous entrons dans la vie du poète, son cœur, son sens de l'observation, une espèce de douleur dans laquelle, malgré soi, on se trouve absorbé. Le prix Hérédia à Laurent Gaspard pour « Derrière le dos de Dieu ». Laurent Gaspard n'est plus à présenter. Son œuvre est une perpétuelle interrogation aux origines du poète, qui se soucie fort peu de prosodie, mais s'avance, sensible et lucide, dans le monde étrange, notre monde, qu'il n'a pas fini de découvrir. Le prix Copé, François Copé, à Jean-François Lopez, pour « S'appuyer sur le vent, poésie marine ». Le recueil offre beaucoup d'espace à quelques strophes d'une grande justesse de ton. L'auteur est sobre, il a de l'oreille, un vrai sens poétique. Le prix Paul Verlaine à Marie-Étienne pour le livre des recels et Haute Lisse. Le livre des recels comporte une anthologie des premiers recueils du poète, replacés dans les années où ils furent écrits, du Vietnam et de l'Afrique à la banlieue parisienne, à la colline de Chaillot. Belles sont ces lettres d'Idumé, qui accompagne la Bérénice de Racine. Haute Lisse est encore plus touchant, traitant d'une enfance ressongée avec un captivant côté Lewis Carroll. prix Ploquin-Canon à Jérôme Leroy pour un dernier vers en Atlantide. Voici un délicieux recueil de vers très libre qui fait entendre une élégante mélancolie et une voix intérieure. Il est constitué d'images précieuses, fines aquarelles, de très vives couleurs. Le prix Henri Mondor à Thierry Roger pour l'archive du coup de dé. Étude critique de la réception d'un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, de Stéphane Mallarmé. L'ouvrage analyse la réception, disons aujourd'hui l'accueil, extrêmement varié de l'ultime œuvre de Mallarmé qui a suscité l'intérêt des critiques littéraires, des écrivains, des poètes, des philosophes, des psychanalystes, des scientifiques même, des artistes de toutes disciplines. Ainsi constitue-t-il un outil de référence pour toute la recherche future et nous l'en remercions. Le prix littérature et de philosophie, prix Montyon, à Stéphane Chauvier pour le sens du possible. Tout objet réel demanderait, pour être pleinement compris, qu'on y inclue ce qu'il aurait pu être, voire ce qu'il devrait être. En intégrant le possible au réel, au lieu d'en faire un doute inaccompli, Stéphane Chauvier rend son sérieux à la logique modale et sa dignité au discours philosophique. Prix La Bruyère à Emmanuel Housset pour Husserl et l'idée de Dieu. Reprenons les textes dispersés que Husserl, il n'y a pas de tréma sur le U, donc je prononce OU, a consacré à la question de Dieu. L'ouvrage montre que la tentative paradoxale d'atteindre Dieu sans Dieu n'est ni athéisme, ni mysticisme dissimulé, mais parcourt toutes les voies qui permettent de déployer la notion de rationalité en toutes ses dimensions. Le prix Jules Janin à Philippe Brunet pour sa traduction de l'Iliade, traduction révolutionnaire dans la mesure où elle rend la rugosité rocailleuse du texte d'Homère. Le rythme est excellent, sans prétendre reconstituer des vers réguliers, la cadence est telle qu'on est immergé, dit Dominique Fernandez, dans le bouillonnement d'une poésie naissante. Le prix Émile Faguet à Gilles Philippe pour le français « Dernière des langues », histoire d'un procès littéraire. À l'idée que le français s'est imposé à toute l'Europe au XVIIIe siècle en raison de qualités considérables, l'auteur oppose la thèse inverse, oubliée, mais défendue par nombre de témoins, que le français, riche en défauts, est plus imparfait que d'autres langues voisines. Flaubert, La Harpe, Voltaire sont convoqués à la barre de ce tribunal. Et pourtant, c'est au triomphe du français qu'il conclut, grâce à la capacité des écrivains d'en contourner les pièges. Le prix Bartout à Marc Weissmann pour « Quand j'étais normal », livre qui rend assez bien compte des désespérances, tourments et impasses de la France au début du XXe siècle, c'est-à-dire aujourd'hui. La médaille d'argent du prix Louis Bartout va à Madame Marguerite Mutterard pour le récit de Margue. Dans son adolescence, Madame Mutterard, avec un courage qui lui a valu la croix de guerre, a bravé 1000 dangers et fourni des informations qui eurent une importance capitale dans la libération de l'Alsace. Son récit, 70 ans plus tard, est à la fois d'une parfaite vérité et d'une rare modestie. Le prix Anna de Noailles à Colombe Schneck pour Une femme célèbre. Là, il s'agit de la biographie de Denise Glaser, rappelez-vous, présentatrice de Discorama, une ancienne émission de télévision populaire, supposément écrite par Jeanne Rosen, personnage derrière lequel se cache Colombe Schneck, qui s'interroge sur l'oubli après la gloire, la solitude après la popularité et les échéances de la vie. Le prix François Mauriac à Thomas B. Reverdy pour L'envers du monde. Alors, voici un livre un peu risqué pour un Français, puisqu'il fait vivre des personnages américains autour d'une enquête policière à Ground Zero à New York. Mais l'auteur crée des personnages, construit une intrigue et sait se faire lire. Le prix Georges Dumézil à Thora von Mall pour Liaison dangereuse, l'apport du français à la langue anglaise. Tiens, un humoriste britannique a pu dire que l'anglais n'était que du français prononcé avec un accent qui le rend méconnaissable. Dora Van Mal le prouve avec autant d'humour, en renversant avec science et intelligence le problème qui nous tient à cœur. Prix Roland de Jouvenel à Jérôme Prieur pour Rendez-vous dans une autre vie, une sorte de vagabondage littéraire, historique ou contemporain, d'une grâce et d'une profondeur remarquables, où l'auteur se montre flâneur, voyeur, dans une langue qui allie grâce et rigueur. Le prix billet à Françoise Vaquet pour Respublica Academica, rituel universitaire et genre du savoir, 17e, 21e siècle. Il est ici question de la civilité, c'est en italique, qui régit la vie savante, des rites qui ordonnent la vie universitaire, de son système d'autorité, ses légendes, son panthéon. L'ouvrage est un véritable manuel ethnologique du monde savant qui offre au lecteur un grand bonheur de lecture. Le prix Ève de la Croix à Olivia Rosenthal pour « Que font les reines après Noël ?» Cet essai de fiction très original allie quête de soi et enquête des autres en mettant en parallèle la vie d'une jeune femme et le sort réservé aux animaux et engage finalement à se libérer de l'enfermement imposé par la norme sociale. La médaille d'argent du prix Ève de la Croix à Michel Mulders pour William James, biographie instructive d'un philosophe ami de Bergson, frère d'Henry James, scientifique et médecin de formation, religieux d'inspiration, pragmatiste de doctrine, mondialement connu en son temps et un peu oublié aujourd'hui au profit de son frère. Au prix Jacques de la Croix, Marc Brochet pour Le Job des animaux, Job le personnage, et Carole Ferré pour Une civilisation du cheval, les usages de l'équidé de la steppe à la taïga. Marc Brochet est un spécialiste de la réception des figures bibliques dans la littérature et l'art. De l'âne biblique à l'âne littéraire, il donne ici une étude très fournie en notes et gravures, dont on ne peut que regretter qu'elle s'arrête un peu tôt dans le XIXe siècle. L'essai de Carole Ferré est un bel et brillant historique des relations de serviteur à maître et de maître à serviteur dans la vie quotidienne pendant les guerres et les rares moments de paix de notre civilisation. Prix Civé à Christian Signol. Ce prix est attribué tous les 5 ans à un écrivain du terroir. Un rapporteur que je ne nommerai pas ajoute que Faulkner, Mauriac et Giono étaient aussi des écrivains du terroir. Christian Signol, qui habite à Brive, a réussi le tour de force de s'imposer contre le silence de la critique parisienne, ses copinages, ses relations incestueuses et son conformisme. Le bouche à oreille lui a gagné un public fidèle. Il donne ici le portrait de l'une de ses institutrices de l'après-guerre dont nous conservons tous un souvenir attendri. Aucune mièvrerie, mais la force de la vérité et une offrance que l'on ne voit pas toujours dans les romans contemporains. Prix d'histoire, prix Guizot, Charles-Édouard le Vilain pour Vaincre Louis XIV, Angleterre, Hollande, France, histoire d'une relation triangulaire et tumultueuse, 1665-1688. Ce jeune spécialiste de l'Angleterre, plongeant dans l'histoire mal connue des actuels Pays-Bas, a appris le néerlandais pour ses recherches. Il donne ici, dans une étude très documentée et agréable, à voir une version nouvelle de la politique étrangère de Louis XIV dans la première partie de son règne. La médaille d'argent du prix Guizot à Franck Attard pour « Aux armes citoyens, naissance et fonction du bellicisme révolutionnaire ». L'auteur fonde son étude sur l'interprétation des documents et des débats de l'Assemblée législative qui siège à partir du 1er octobre 1791 pour montrer un véritable parti de la guerre qui s'est constitué en son sein. Le prix Thiers à Gérard Jorland pour Une société à soigner, hygiène et salubrité publique en France au XIXe siècle. C'est toute une société qui veut changer la médecine afin précisément de soigner la société. Tel est le propos de ce livre qui insiste sur la singularité française. On est au croisement de la réflexion philosophique, de l'histoire sociale, de l'histoire des sciences et de l'histoire culturelle. Prix Eugène Collat à Johann Chapoutot pour Le meurtre de Weimar, analysant l'assassinat d'un ouvrier communiste par des membres des SA dans un bourg de Silésie, l'auteur décrit la dynamique politique qui, dans l'été 1932, scelle la mort de la République de Weimar. Le livre est un modèle d'histoire politique. Le prix Eugène Carrière à Patrick Michel pour Peinture et plaisir, les goûts picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle. Plus qu'un état des lieux, plus qu'un panorama du monde des collectionneurs, plus qu'une enquête archivistique et indispensable, Patrick Michel propose ici une véritable étude des goûts picturaux des Parisiens de ce temps-là. Le prix Georges Goyot à Ludovic Frobert pour Les Canuts ou la démocratie turbulente, Lyon 1831-1834, considérant que l'on s'est égaré sur le sens des révoltes des Canuts, comprises comme des révoltes de prolétaires, l'auteur a utilisé la collection de l'hebdomadaire L'Écho de la Fabrique pour montrer que les ouvriers de la soie sont en majorité de petits patrons, jaloux de leur indépendance. Prix Foch à Xavier Hofer pour Les nouveaux dangers planétaires, chaos mondial, décèlement précoce. Spécialiste de nouvelles menaces contemporaines, Xavier Hofer fait l'inventaire des défis que rencontrent les États à l'heure de la mondialisation et auxquels les réponses du passé ne sauraient suffire. L'ouvrage, d'abord destructif, atteint le stade de la soptérique. Prix Louis Castex à Vincent Debène pour L'adieu au voyage, l'ethnologie française entre science et littérature. Il va aussi à Alix de Saint-André pour En avant, route. L'essai de Vincent Debène, si je prononce bien son nom, retrace l'histoire du savoir anthropologique et de la tentation littéraire de l'ethnologie. C'est une analyse passionnante de ses seconds livres, presque systématiquement rédigés par des ethnologues comme une forme de compensation des insuffisances de leurs premiers travaux scientifiques. Quant au livre d'Alix de Saint-André, il confirme ses dons bien connus de narratrice pleine d'humour, qui nous révèle entre autres que les pèlerins sont réunis moins par la foi que par les ampoules aux pieds. Prix Monseigneur Marcel à Anne-Marie Lecoq pour Le bouclier d'Achille, un tableau qui bouge. Le récit de la fabrication du bouclier d'Achille au champ 17 de l'Iliade a fasciné les théoriciens comme les historiens de l'art depuis l'Antiquité et principalement au XVIIe et XVIIIe siècle. L'érudition de l'auteur, portée par une écriture allègre, fait de cet ouvrage un événement. Médaille d'argent du prix Monseigneur Marcel à Étienne Vaucheret pour Brantôme, mémorialiste et conteur. L'éditeur du Recueil des Dames, dans la bibliothèque de la Pléiade, refute ici la stupide légende gauloise d'un brantôme coureur de filles et rétablit la vérité du gentilhomme, de l'humaniste, de l'écrivain, de l'homme de cour, du grand voyageur et surtout du grand écrivain, l'un des pères de Montaigne. Le prix Diane Potier-Boëss à Henri de Vailly pour Liban-Syrie, le mandat 1919-1940. Cette histoire du mandat exercé par la France au Moyen-Orient en l'embrasse sous les aspects. Elle s'impose au lecteur par la rigueur observée dans l'exposé des faits, des événements, la richesse de l'information et la grande clarté du style. Le prix François Millepierre à Catherine Barouin pour Se souvenir à Rome. Forme, représentation et pratique de la mémoire. Dans le sillage des travaux du regretté Jean-Pierre Vernant et de Frances Yates, Sur la mémoire, comme principe d'éducation et de civilisation, ce livre étudie le lien que les Romains ont noué entre mémoire et imitation sélective pour faire du passé une puissance fécondante et ordonnatrice du présent. Médaille d'argent du prix François Millepierre à Nicolas Caen pour La boîte à Perrette, le jansénisme parisien au XVIIIe siècle. Ce chartiste, spécialiste du financement du mouvement janséniste dans le Paris du XVIIIe siècle, mène une vaste et précise enquête sur le rigorisme religieux dans la bourgeoisie marchande parisienne. La médaille d'argent de ce même prix à Thierry Sarment et Mathieu Stoll pour « Régner et gouverner, Louis XIV et ses ministres ». Les deux auteurs détaillent l'ajustement entre les décisions royales et l'important dispositif d'information, de conseil aussi bien que d'exécution de ces décisions. Ils relèvent aussi des passe-droits qui, en sourdine, ont perverti le beau système en principe rationnel et efficace. Enfin, les prix de soutien à la création littéraire, le prix Henri Régnier va à Guillaume Métayer après Anatole France et le nationalisme littéraire, scepticisme et tradition, le prix Amic à Catherine Anjolet après Sous silence, prix Motard à Stéphane Corvisier après Reine de la nuit, qui nous permet de terminer plein feu sur un visage de la jeunesse. L'Académie encourage ces trois auteurs, dont le premier a écrit une étude neuve, savante et prometteuse, sur une question qui touche à l'histoire politique, littéraire et idéologique française. Dans les genres romanesques, nous invitons Catherine Anjolet à poursuivre, à continuer de donner la parole aux enfants privés de voix, et Stéphane Corvisier à poursuivre l'œuvre qu'il entame avec un premier roman que l'on peut vraiment dire remarquable. Les lauréats des prix de fondation voudront bien se lever maintenant pour que nous leur prodiguions nos applaudissements.
C'est bien. La parole est à Madame le secrétaire perpétuel pour la lecture de son discours.
En cette année 2011, il y a deux siècles tout juste, Chateaubriand était élu à l'Académie française. Élu, mais jamais reçu, car son discours avait déplu à Napoléon. Tels sont dans leur sécheresse les faits qui semblent en définitive pouvoir se réduire à un simple incident. Mais en réalité, l'histoire académique de Chateaubriand est infiniment plus complexe, car elle s'inscrit dans la relation singulière qui unit durablement l'empereur et le poète, relation de fascination mutuelle et d'irritation mutuelle. Ce bicentenaire d'une élection en partie manquée nous offre l'occasion de nous pencher sur le couple inséparable et toujours en conflit que formèrent le grand empereur qui ressuscita les académies après leur suppression par la Révolution et le premier des romantiques. Il nous donne aussi la possibilité d'accueillir, enfin, avec deux siècles de retard, Chateaubriand sous la coupole. Notre histoire commence bien avant l'élection, à l'aube du XIXe siècle. Exilé à Londres depuis 7 ans, Chateaubriand rentre alors en France sous le nom d'emprunt de Jean-David de Lassagne, natif de Neuchâtel. Mais derrière cette fausse identité, il y a bien François-René de Chateaubriand, qui, dans ses lettres à ses amis, ajoute sous sa signature « auteur du génie du christianisme ». Son grand ouvrage n'est pourtant pas achevé. Mais ses proches, le poète Fontane, Joubert, Madame de Staël, Pauline de Beaumont, l'ont poussé à en publier une partie sous le titre d'Atala. Le succès est immédiat. Chateaubriand écrit « C'est d'Atala le bruit que j'ai fait dans le monde. Ma carrière politique commença ». Première conséquence de cette gloire nouvelle, Chateaubriand obtient en juillet 1801 que son nom soit retiré de la liste des émigrés. Au vrai, pour l'obtenir, il a fallu que ses amis, aidés de la sœur de Bonaparte, Élisabeth Tchéqui, très liée au marquis de Fontane, plaident pour lui auprès du ministre de la Police, Fouché. Après le succès littéraire, cette décision politique lui ouvre la voie de l'action publique dont il rêve. C'est alors que son destin va croiser celui de Bonaparte. Le premier consul a compris que les Français souhaitent retrouver leur religion, même si les philosophes de l'Institut dont il est membre s'indignent de sa volonté, je les cite, de mener la République à confesse. Indifférent à leur opposition, il négocie avec le pape le concordat, le fait voter par le corps législatif le 8 avril 1802. 10 jours plus tard, jour de Pâques, tandis que pour la première fois depuis des années, les cloches sonnent à toute volée dans Paris, le premier consul, vêtu de l'habit rouge, entouré de tous les dignitaires du régime, assiste à Notre-Dame à un tédéum solennel. On célèbre ce jour-là la fin des guerres révolutionnaires marquées par le traité d'Amiens conclu avec l'Angleterre et surtout la religion rétablie en France par le Concordat. Nombre de fidèles de Bonaparte s'indignent de ces capucinades, comme ils disent, et l'un de ses généraux commente « Il manqua à Notre-Dame les 100 000 hommes qui se sont fait tuer pour supprimer tout cela. » Contre ceux qu'il critique, Bonaparte a trouvé un soutien de poids, Chateaubriand. Le génie du christianisme vient de paraître et dans le Mercure de France, font un écrit que l'ouvrage est le symbole du retour du religieux en France. Le succès du livre est immédiat et considérable. Il fait écho à l'émotion suscitée par la cérémonie de Notre-Dame. Pour Chateaubriand, c'est le début du grand face-à-face avec le premier consul. Il écrit « J'entrais dans la politique par la religion ». Jean d'Ormesson a souligné que Chateaubriand était l'homme des contradictions. Contradictions du cœur, mais tout autant de l'esprit et de la volonté. Le succès du génie du christianisme l'incite à souhaiter tous les honneurs, et d'abord l'élection à l'Académie française. Étrangement, ses biographes ont ignoré l'épisode de sa première candidature à l'Académie, celle de 1803, pourtant combien révélatrice. Au début de cette année, deux académiciens disparaissent, Saint-Lambert et Lard. Le premier, philosophe passionné, sera critiqué à l'heure de sa mort par Chateaubriand, au contraire de Laharpe, dont il salua la mémoire avec émotion. Laharpe meurt le 11 février 1803. Chateaubriand se porte aussitôt candidat à sa succession. Mais quelques jours plus tard à peine, le 20 février, il écrit au secrétaire perpétuel Suard, je le cite, « Monsieur, je m'étais d'abord présenté pour solliciter la place vacante à l'Académie par la mort de M. de Laharpe. De nouvelles réflexions m'ont fait renoncer à ce projet. J'ai prié les personnes qui avaient bien voulu me promettre leur voix de les porter sur un autre candidat. » Cette première candidature à l'Académie est étonnante à bien des égards. Elle témoigne de l'intérêt réel que l'auteur du génie du christianisme porte déjà à une institution qui vient tout juste de renaître. Elle témoigne aussi de sa familiarité avec l'institution. Il parle dans sa lettre à Suard de l'Académie alors que le mot est prohibé alors à l'Institut. Mais au même moment, les membres de la deuxième classe à laquelle il s'est porté candidat revendiquent le droit d'appeler leur classe « Académie », ce qui leur sera refusé. Mais aussi, quelle démonstration des contradictions du poète. À peine candidat, il renonce. L'explication réside probablement dans la multiplicité de ses ambitions. Fort d'une connivence qu'il tient pour acquise avec le premier consul, Chateaubriand rêve aussi d'une ambassade. Il veut être envoyé auprès du pape Pie VII. N'a-t-il pas restauré l'idée du christianisme en France ? Vaincu l'esprit philosophique tandis que Bonaparte réconciliait l'État et l'Église ? Elisabeth Ciocchi, toujours elle, et Lucien Bonaparte se liguent pour l'aider. Lucien organise la rencontre de Chateaubriand avec son frère au cours d'une fête donnée chez lui. Chateaubriand écoute Bonaparte plutôt qu'il ne parle et séduit, assure Lucien, son interlocuteur sensible à la convergence de leurs idées. Et Chateaubriand d'écrire « À la suite de cette entrevue, Bonaparte pensait à moi pour Rome. » Il ajoute qu'il refusa net cette proposition et qu'il fallut les pressions d'un prélat pour la lui faire accepter. Et ici, Chateaubriand fausse quelque peu la perspective. Il désire quitter la France où son œuvre suscite certes l'admiration, mais provoque aussi de vives polémiques. Il veut, il l'écrit, emmener Pauline de Beaumont en Italie pour tenter de la sauver d'une mort prochaine, il veut enfin échapper pour un temps à Céleste, sa fidèle mais très encombrante épouse. Et surtout, il veut un poste diplomatique. Pour l'obtenir, il a mobilisé Elisabeth Ciocchi par l'intermédiaire du fidèle Fontane. Sans doute, il ne sera pas ambassadeur. Le rôle est dévolu au cardinal Fesch, oncle de Bonaparte, mais il sera premier secrétaire. Expert en christianisme, il est convaincu de pouvoir dominer le cardinal. Ce poste au Vatican est tout à la fois son ambition réalisée et une fuite, et l'Académie ne trouve plus de place dans ses nouveaux dessins. Il suffira de peu de temps à Chateaubriand pour qu'il constate son erreur. D'abord, il a d'emblée multiplié les faux pas. Il a demandé audience au Saint-Père avant même que le cardinal Fesch, qui est l'ambassadeur à Rome, y soit arrivé, puis au roi de Sardaigne, qui est alors en difficulté avec la France. Tout cela exaspéra le cardinal Fesch, qui le confina dans un réduit obscur du palais Lancelotti, réduisant sa fonction à la signature des passeports. Dans une lettre à Fontane, Chateaubriand se plaignit amèrement. « À présent que j'y suis, je vois que la place de secrétaire d'ambassade est une place trop inférieure pour moi. Je suis donc résolu à interrompre cette carrière. » La mort de Pauline de Beaumont à Rome acheva de le convaincre qu'il lui fallait quitter au plus tôt la ville et son poste. Mais il n'en avait pas fini avec la carrière diplomatique. Bonaparte, qu'il admire et qui n'écoute pas les rapports malveillants de son oncle, lui offre alors un poste de chef de mission qui le mettra à l'abri des vexations qu'il a connues à Rome. Le poète représentera la France dans le canton du Valais devenu indépendant. Chateaubriand, qui, disons-le au passage, confond le Valais avec le canton de Vaud, accepta la proposition, opta de Talleyrand des subsides pour monter son ambassade et se prépara au départ. Mais soudain, ce projet s'écroule. Et cette fois, Chateaubriand n'y est pour rien. L'exécution du duc d'Enghien, fusillé dans les fossés de Vincennes le 21 mars 1804, le bouleverse au plus haut point. Après un tel crime, il n'était plus question pour lui de servir Bonaparte. Il envoya sa démission. Sans doute invoquait-il comme justification la santé de Madame de Chateaubriand, mais le prétexte ne trompa personne et la démarche était d'un grand courage. Elle signifiait que Chateaubriand rompait avec le premier consul et entrait dans l'opposition au régime. Le courage du poète ne fit guère d'émules parmi ceux qui servaient Bonaparte. Mais il émut fortement Talleyrand, qui tarda quelques jours à en informer le destinataire, et Elisa Bacciocchi, qui une fois encore plaida auprès de son frère la cause de l'insoumis. Bonaparte n'entendait pas pour sa part que les écrivains se mêlent de politique. « Ce sont des coquettes, » dit-il à son frère Joseph, « avec lesquelles il faut entretenir un commerce de galanterie, mais ne jamais songer à en faire sa femme, ni son ministre. » Mais il savait reconnaître le génie, et il préféra la clémence d'Auguste à de mesquines persécutions. Entre le poète et le consul devenu empereur, ce fut un temps de silence. Chateaubriand voyagea en Grèce, en Terre Sainte, en Andalousie, puis il revint à Paris le 5 juin 1807, et à peine revenu, il porta un nouveau coup à celui qui, entre-temps, avait fondé l'Empire. La plupart de ses amis royalistes s'y étaient ralliés, mais Chateaubriand n'oubliait ni ses convictions, ni le duc d'Enghien. Il acheta le Mercure de France et y publia aussitôt un article d'une extrême violence. Je le cite, « Lorsque dans le silence de l'abjection, on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave » et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. Campé en Tacite face à Néron, Chateaubriand commentera ainsi son exploit. « Si Napoléon en avait fini avec les rois, il n'en avait pas fini avec moi. Mon article remua la France, on en répandit d'innombrables copies à la main, on le lisait dans les salons, on le colportait de maison en maison. » Il faut avoir vécu à cette époque pour se faire une idée de l'effet produit par une voix retentissant seule dans le silence du monde. Toujours rancunier, le cardinal Fesch s'empressa de faire lire l'article à son neveu, qui dans un premier temps s'indigna. « Chateaubriand, croit-il que je suis un imbécile? Que je ne comprends pas? Je le ferai sabrer sur les marches de mon palais. » Mais Fontane plaida. « Il ne conspirait pas. Il ne peut rien contre vous. Il n'a que son talent. Mais à ce titre... il est immortel dans l'histoire du siècle de Napoléon. Voulez-vous qu'on dise un jour que Napoléon l'a tué ou emprisonné ? » Malgré sa fureur, Napoléon reconnaissait le génie de Chateaubriand. Il se contenta de l'écarter du Mercure de France. Il semble qu'à ce moment, le poète songea une nouvelle fois à se présenter à l'Académie. Les salons s'agitèrent, Madame de Rémusat se fit l'écho d'une possible candidature Chateaubriand, mais l'intéressé était conscient de l'hostilité de l'empereur à son égard. De celle aussi de la plupart des académiciens, sagement, il renonça. Pendant ce temps, son œuvre grandissait. Les martyrs, l'itinéraire de Paris à Jérusalem vont être publiés. Et 2 ans après le coup d'éclat du Mercure, le poète va trouver un nouveau motif à s'indigner. En 1809, alors que paraissent les martyrs, c'est son propre cousin, Armand de Chateaubriand, son compagnon d'enfance, que la foudre va frapper. Proche des milieux chouans, Armand est arrêté, accusé d'espionnage au profit des princes et peut-être des Anglais. La peine capitale l'attend. Chateaubriand plaide sa cause auprès de Fouché, de l'impératrice, il écrit à l'empereur. En vain, Armand de Chateaubriand sera fusillé le 31 mars 1809 et Chateaubriand s'installa alors dans un deuil ostentatoire. La rupture entre les deux hommes parut cette fois définitive. Et pourtant, l'embellie pointait déjà. 1809 est l'année du grand tournant de l'Empire, de la rupture avec un passé révolutionnaire qui jusqu'alors pesait encore sur le régime. Après la victoire de Wagram, le 6 juillet 1809, c'est la paix avec l'Autriche. Répudiant Joséphine, épousant Marie-Louise d'Autriche, nièce de la reine Marie-Antoinette, Napoléon entrait dans le cercle des rois et même dans celui des Bourbons. Les régicides disparaissent de son entourage. Fouché est chassé, remplacé par Savary, duc de Rovigo, nommé ministre de la police. L'heure de la réconciliation avec les royalistes a sonné. Les écrivains sont appelés à participer à ce tournant historique. Le plus illustre d'entre eux, Chateaubriand, doit naturellement trouver sa place dans l'Empire, réconcilié avec la monarchie. À la fin de cette année décisive, Napoléon a déjà montré en quelle estime il tenait Chateaubriand. Visitant le salon de peinture, il a constaté l'absence du portrait de l'écrivain, peint par Giraudet, et il a exigé de vivant de nom qui lui fut immédiatement présenté. Même si son commentaire fut quelque peu ironique, il dit « on dirait un conspirateur descendu par une cheminée », le signal était clair. Rovigo est chargé du ralliement du faubourg Saint-Germain et des beaux esprits qu'il aspire, c'est-à-dire des hommes de lettres à qui, déplore Napoléon, on a dit que je ne les aimais pas. Ce sont des hommes utiles qu'il faut distinguer parce qu'ils font honneur à la France. Premier moyen de rallier les hommes de lettres, les prix très richement dotés créés par un décret de 1804 qui doivent être décernés tous les 10 ans, le jour anniversaire du 18 Brumaire. Les classes de l'Institut sont chargées de présenter des candidatures à ces prix décennaux, mais quand la classe des lettres lui apporte ses propositions, l'empereur s'indigne. Le génie du christianisme n'y figure point. Le ministre de l'Intérieur, Montalivet, adresse alors au directeur de la deuxième classe un ultimatum. Sa Majesté désire que soit convoquée immédiatement la classe pour indiquer les motifs qui l'ont déterminé à garder le silence sur cet ouvrage. L'Académie, ou plutôt la deuxième classe, tenta de tergiverser, arguant que le génie du christianisme, n'étant ni un ouvrage de littérature, ni un ouvrage de philosophie générale, n'entrait pas dans les catégories susceptibles d'être primées. Furieux de la résistance d'une Académie qu'il avait restaurée, Napoléon exigea des explications motivées. L'Académie dut former une commission qui produisit un rapport relativement modéré mais critique, auquel furent ajoutées d'autres opinions d'académiciens, souvent plus hostiles, qui avaient été lues lors d'une séance secrète. L'un des plus virulents était Nepomucène Lemercier, qui affirmait froidement que l'Académie ne pouvait sans se ridiculiser perdre son temps à commenter un tel ouvrage en raison de ses graves défauts. Et l'Académie concluait le 13 février 1811, je cite, « que l'ouvrage lui avait paru défectueux, quant au fond et au plan. » Mais elle constatait dans le même temps que, tel qu'il est, l'ouvrage lui paraissait mériter une distinction de Sa Majesté. En dépit de la rédaction confuse de ses conclusions, on comprend que le génie du christianisme ne pouvait prétendre un prix décennal, mais que les académiciens avaient entendu le propos de Montalivet et que, soucieux de complaire à l'empereur et à l'opinion publique, ils recommandaient volontiers cet ouvrage pour une autre récompense. Napoléon fut si peu satisfait de ce jugement de Salomon qu'il suggéra une solution radicale. L'Académie, qui se refusait à distinguer Chateaubriand par un prix, n'avait qu'à l'accueillir dans ses rangs. Et l'occasion d'imposer ce projet était là. Un fauteuil venait de se libérer, et pas n'importe lequel, celui de Marie-Joseph Chénier, mort le 10 janvier 1811. Frère du poète guillotiné, Chénier était lui-même un régicide. Il avait aussi raillé Chateaubriand pour avoir réhabilité la religion, écrivant, je cite Chénier, « Ô terrible Atala, tous deux, avec ivresse, courront encore goûter les plaisirs de la messe. » Et dans l'affaire des prix décennaux, Chénier avait été l'un des plus violents critiques de Chateaubriand. Napoléon trouva sans doute fort divertissant que Chateaubriand succéda à celui qu'il avait toujours combattu. L'Académie était d'ailleurs pour Napoléon une citadelle à conquérir. Dans ses mémoires, le duc de Rovigo éclaire ce projet, même s'il s'en attribue la paternité. Il avait constaté, écrit-il, que cette société, il s'agit de l'Académie, était une coterie dont le contrôle pouvait être fort utile au ministre de la police, ajoutant, je le cite, « J'éprouvais le besoin de former autour de moi une petite réunion d'hommes d'esprit. » Il compte comment il conquit un premier fauteuil, je le cite encore, « en faisant donner une majorité de suffrage à l'un des miens, M. Esménard, majorité sans laquelle il eût été impitoyablement rejeté. Et enhardi par ce premier triomphe, il poursuit, quand Chénier vint à mourir, je voulus y faire entrer M. de Chateaubriand et je réussis à le faire nommer. L'élection Chateaubriand au fauteuil de Marie-Joseph Chénier ne fut pas aussi simple que le prétend Rovigot, même si le rôle qu'il y joua est indéniable. Mais l'idée de punir l'Académie pour son comportement dans l'affaire des prix des Sénaux revient sans conteste à Napoléon. Chateaubriand hésitait à poser sa candidature alors que l'Académie avait si vivement critiqué son œuvre. Mais il subit main de pression, celle de ses amis, celle de Madame de Chateaubriand, toujours inquiète de le savoir en conflit avec l'empereur, et surtout celle de Rovigot. Chateaubriand a écrit que ce dernier le menaça, s'il ne le faisait pas, de l'enfermer pour le restant de ses jours à Vincennes. On peut douter que le ministre de la Police, conscient de l'attention que l'empereur prêtait alors à Chateaubriand, ait tenu un propos si menaçant. Mais Chateaubriand avait tout de même tout lieu de s'inquiéter d'un refus qui aurait irrité Napoléon. Pourtant, s'il se présenta à l'Académie, ce ne fut pas seulement pour plaire à Napoléon, comme on l'a dit trop souvent. Sa première candidature, abandonnée certes en 1803, témoigne bien qu'il fut toujours tenté d'entrer à l'Académie. Après maintes hésitations, il y déposa sa candidature. Puis il fallut songer aux visites. Et Chateaubriand manifesta alors une étonnante insolence à l'égard des académiciens, voire la répugnance que cet usage lui inspirait. Il fit la plupart de ses visites à cheval, se contentant souvent de déposer sa carte chez ceux qu'il tenait pour insignifiants, hostiles à sa personne. Ce comportement cavalier conforta les membres de l'Académie dans leur hostilité envers lui. Dans les mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand relate la visite qu'il fit à l'abbé Morlaix, mal disposé à son égard, et dépeint en termes peu amènes son accueil. Mais, ajoute-t-il, l'élection eut lieu, je passai au scrutin à une assez forte majorité. Comme il le fait souvent, Chateaubriand altère quelque peu la vérité, qui ne fut pas si avantageuse pour lui. En réalité, son élection fut difficile. 23 membres présents, la majorité absolue étant à 12, il ne fut élu qu'au second tour et ne l'emporta sur son concurrent, Lacretelle Jeune, que d'une seule voix, recueillant seulement 13 voix. Ce duel électoral ne manquait cependant pas de piquant. En 1803, la candidature retirée de Chateaubriand à la succession de la Harpe avait assuré l'élection de Lacretelle, dit l'aîné. 8 ans plus tard, c'est un autre Lacretelle qu'il rencontra et il fut élu contre lui. L'élection amusa fort Napoléon, qui le soir même dit au marquis de Fontane « Messieurs de l'Académie, vous avez voulu rivaliser de finesse avec moi ? Eh bien, vous prenez l'homme au lieu du livre. » Mais il ajouta « Je verrai s'il n'y a pas moyen de donner au nouvel élu quelques grandes places, une direction générale des bibliothèques de l'Empire. » Ce propos rapporté à Chateaubriand le réjouit fort. Il rêva, comme en 1803, qu'une grande carrière publique s'ouvrait à lui. Mais la faveur impériale revenue, dont ce projet témoigne, pouvait-elle se conjuguer avec le discours qu'il lui fallait écrire ? L'élection acquise venait en effet le moment difficile. Il fallait rédiger le discours d'usage. Dans ses mémoires, Chateaubriand reconnaît d'emblée que cette épreuve lui pesait. « Je le fis et le refis 20 fois, n'étant jamais content de moi. Tantôt, le voulant rendre possible à la lecture, je le trouvais trop fort. Tantôt, la colère me revenait. » Et je le trouvais trop faible. Ce fut moins l'éloge de Chénier qui le gêna que le propos consacré au protecteur, c'est-à-dire à Napoléon. Chateaubriand fut toujours partagé entre l'admiration que lui inspirait l'homme d'État, c'est-à-dire la partie publique de sa vie, écrit-il. Mais il y ajoute mon antipathie pour l'homme. À l'heure d'écrire ce discours, il oscilla entre ses sentiments extrêmes, le souvenir du duc d'Enghien, celui plus atténué mais douloureux de son compagnon d'enfance, François de Chateaubriand, et la reconnaissance des mérites de Napoléon d'avoir voulu renouer avec la tradition religieuse et monarchique de la France et décider de rompre avec la Révolution. Comment rendre tout cela ? Il trouva chez Milton un modèle, celui de l'éloge mitigé de Cromwell, que Fontane lui avait recommandé. Il lui avait recommandé aussi de traiter Chénier à sa guise, pourvu que vous fassiez l'éloge de l'empereur. Le 17 avril, le discours était prêt et il fut lu devant une commission de 5 membres de l'Académie chargée de l'entendre. Ses auditeurs furent pétrifiés par le propos de Chateaubriand. Pour Chénier, le cas était simple. Régicide, ennemi de la religion, son évocation aura servi de prétexte à Chateaubriand pour rappeler le souvenir du poète guillotiné et égrener les noms de ceux qui, par leur courage et leur esprit de liberté, avaient fait honneur à l'Académie. Le marquis de Boufflers, Delisle, l'abbé Morlaix, Fontane, Ségur, Renoir, Bernardin de Saint-Pierre et tant d'autres. En condamnant Chénier, Chateaubriand lui opposa toute l'Académie, présente et passée, convoquant contre lui les ombres plus lointaines et combien glorieuses de Corneille, Racine, Boileau, Fénelon, Voltaire ou Montesquieu. Mais le rejet des horreurs révolutionnaires, l'hymne à la liberté, représentait la partie la plus aisée du discours, celle qu'en 1811, on ne pouvait plus contester. Le plus difficile restait à faire, parler de Napoléon. Et ici, le propos de Chateaubriand répondit à l'attente et au conseil de ses amis. Écoutons-le. « Je vois un berceau chargé des destinées de l'avenir. De toutes parts retentissent les acclamations du soldat. César monte au Capitole. Les peuples racontent ses merveilles. Les monuments élevés, les cités embellies, les frontières de la patrie baignées par les mers lointaines qui portaient les vaisseaux de Scipion et par ces mers reculées que ne vit pas Germanicus. Tandis que le triomphateur s'avance, entouré de ses légions, que feront les tranquilles enfants des muses ? Ils marcheront à la suite du char pour joindre l'olivier aux palmes de la victoire. » En dépit de ce bel éloge de Napoléon, la commission inquiète de la réaction impériale décida d'en appeler au jugement de toute l'Académie, ce qui fut fait à la séance suivante, le 24 avril. Le discours fut lu non par Chateaubriand, qui n'étant pas reçu ne pouvait être présent, mais par un membre de la commission, et il fut aussitôt déclaré irrecevable. Chateaubriand fut prié de corriger son pensum. Il s'y refusa tout net et fit porter au secrétaire perpétuel une lettre qui fermait la porte à toute perspective d'amendement du discours. Je le cite, « Mes affaires et le mauvais état de ma santé ne me permettent pas de me livrer au travail. Et il m'est impossible en ce moment de fixer l'époque à laquelle je désirerais avoir l'honneur d'être reçu à l'Académie. » Pour Chateaubriand, la cause était entendue. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. Informé du débat académique, Napoléon demanda que le discours lui fût communiqué. Sa réaction fut immédiate. Il porta au texte maints coups de plume, barrant des passages entiers, en soulignant d'autres avec des exclamations indignées. Seule la dernière page, celle qui faisait son éloge, fut épargnée. Chateaubriand, à qui le comte Daru rendit son texte, décrivit un manuscrit, déchiré, marqué à birato de parenthèses au crayon, et il commenta ainsi le courroux impérial. « L'ongle du lion était enfoncé partout, et j'avais une espèce de plaisir d'irritation à le croire sentir dans mon flanc. » La proposition que lui fit Daru était simple. Il fallait garder la fin, c'est-à-dire l'éloge de Napoléon, et réécrire tout le reste. Mais à Daru, comme à l'Académie, Chateaubriand répondit qu'il ne toucherait à rien. D'ailleurs, le discours circulait déjà, à travers le pays, en copie manuscrite. La réaction de Napoléon effraya ses proches, même si on peut douter qu'elle ait réellement traduit ses sentiments. Le couplet final à sa gloire pouvait sans aucun doute le satisfaire et il n'y porta aucun commentaire. Mais à ceux qui l'entouraient, il fit entendre un propos très violent, lié sans doute aux échos de l'enthousiasme provoqué par l'éloge de la liberté. N'est-elle pas, écrivait Chateaubriand dans ce discours contesté, le plus grand des biens et le premier des besoins de l'homme ? Devant Daru, consterné, l'empereur explosa. « Je dirais à l'auteur, s'il était devant moi, vous n'êtes pas de ce pays-ci, monsieur. Vos admirations, vos vœux sont ailleurs. Vous ne comprenez ni mes intentions, ni mes actes. Eh bien, si vous êtes si mal à l'aise en France, sortez de France, monsieur. Car nous ne nous entendons pas, et c'est moi qui suis le maître ici. » Et s'adressant à Ségur, qui en séance avait approuvé le discours, il lança. « Vous et monsieur de Fontane, vous mériteriez que je vous misse à Vincennes. Depuis quand l'Institut se permet-il d'être une assemblée politique ? Et encore, si ce discours frénétique et fanatique avait été prononcé en public, j'aurais fait fermer les portes de l'Institut et jeter l'auteur dans un cul de basse-fosse. » Ce propos violent peut à bon droit étonner. Le contenu du discours, éloge de la liberté, attaque contre le pouvoir, revendication du droit de l'écrivain à s'exprimer sans entrave, rien de cela n'était nouveau. Chateaubriand l'avait déjà écrit dans le Mercure de France en 1807. En revanche, les éloges de la fin étaient remarquables, dépassant de loin ceux qu'un Nepomucène Le Mercier avait peu auparavant très chichement accordé à l'empereur dans son propre discours de réception. Sur ce point, Chateaubriand avait écouté les conseils de son ami Fontane. Ce que Napoléon lui reprochait, c'était sans doute l'esprit du discours, ce qu'il appelait l'esprit émigré et contre-révolutionnaire. et surtout d'avoir oublié l'œuvre d'apaisement et de conciliation qu'il avait entreprise alors. C'est le sens du propos qu'il tint à Ségur. Les gens de lettres veulent-ils donc mettre le feu à la France ? J'ai mis tous mes soins à apaiser les partis, à rétablir le calme. Et les idéologues voudraient rétablir l'anarchie ? Comment l'Académie ose-t-elle parler de régicide quand moi, qui suis couronné et dois les haïr plus qu'elle, je dîne avec eux ? Et d'interroger Ségur. Sommes-nous donc des brigands ? Et ne suis-je qu'un usurpateur ? Pour Napoléon, l'affaire était entendue. Le discours ne pouvait être lu. Pour Chateaubriand, elle l'était tout autant. Il ne modifierait pas un passage, pas une ligne, pas un mot. Il interrogea pourtant Suard, le secrétaire perpétuel, très favorable à sa cause. Pourrait-il siéger sans prononcer de discours ? Non, lui fut-il répondu. À Daru, il demanda si l'empereur sévirait contre lui. Il lui fut aussi répondu par la négative. Et Chateaubriand décrira à sa sœur Marie-Anne, devenue comtesse de Marigny, ces mots rassurants. « Je suis hors d'affaire. J'ai refusé net de faire un second discours. Il paraît qu'il ne m'arrivera aucun mal. Je ne sais pas s'ils m'effaceront de la liste, mais ce qu'il y a de certain, c'est que je n'aurai pas de droit aux séances et qu'ainsi, par le fait, je ne serai pas de l'Institut, ce qui m'enchante et ravit tout le monde. » L'élection s'achevait ainsi, sinon par l'éviction, du moins par la mise en sommeil, de la participation de Chateaubriand à la vie de l'Institut. Elle se soldait surtout par la fin de ses espoirs de reprendre une carrière publique. Le rêve de recevoir la direction des bibliothèques était évanoui, et Chateaubriand, toujours aussi pauvre, dut s'en retourner à la vallée aux loups. La rupture avec l'empereur, tant de fois esquissée, tant de fois évitée, était cette fois définitive. Mais déjà, la fin de l'Empire s'annonçait et les défections se multipliaient autour de Napoléon. Le clergé, qui depuis le Concordat lui avait été fidèle, ne pouvait pardonner à l'empereur excommunié d'avoir fait prisonnier le pape. Les guerres se suivaient, ne laissant nul répit au pays. Après la défaite de Leipzig en octobre 1813, le mythe de l'empereur invincible s'effondrait et la société commençait à penser au retour des Bourbons. Pour Chateaubriand, dont la fidélité à la monarchie n'avait jamais faibli, même lorsqu'il saluait certains tournants du système napoléonien, l'heure du bilan avait sonné. Il écrit alors « De Buonaparte et des Bourbons », où il dresse un cruel portrait de l'étranger Buonaparte, comme il écrit. Absurde en administration, criminel en politique, qu'avait-il donc pour séduire les Français cet étranger ? Sa gloire militaire ? Eh bien, il en est dépouillé. Et plus loin, il écrit « Buonaparte », qu'il n'appelle plus Bonaparte, est un faux grand homme. La magnanimité qui fait les héros et les véritables rois lui manque. Et de conclure, descends de ce monceau de ruines dont tu avais fait un trône. Nous te chassons comme tu as chassé le directoire. Telles sont les paroles que nous adressons à l'étranger. C'est un texte courageux, car lorsqu'il est publié, l'empereur est encore là. Il est surtout remarquable car il fait écho aux propos furieux de Napoléon à la lecture du discours interdit de Chateaubriand. « Vous n'êtes pas de ce pays, monsieur. » Après s'être tant regardé, cherché, combattu puis réconcilié, l'empereur et le poète constatent chacun de leur côté qu'ils sont définitivement étrangers l'un à l'autre et ils s'excluent mutuellement. Après cette relation fascinée et chaotique avec Napoléon, Chateaubriand pourra enfin se servir les Bourbons, comme il l'avait toujours rêvé. D'eux, il obtiendra beaucoup. Il fut sous leur règne ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, pair de France, membre respecté d'une académie enfin pleinement restaurée. Et pourtant, comment ne pas le constater, Chateaubriand n'aura jamais pour ces deux rois, dont il attendit si longtemps la venue, l'admiration mêlée de répugnance, mais surtout l'attention passionnée qu'il eut toujours pour Napoléon. Comment conclure, sinon en disant à Chateaubriand ce que l'on dit toujours sous cette coupole au nouvel académicien le jour de sa réception, « Monsieur de Chateaubriand, soyez le bienvenu à l'Académie. »
Mesdames et messieurs de l'Académie, le 5 juillet 2011 disparaissait à Rome le grand peintre américain Tzvi Twombly. Ce jour-là, pure coïncidence, j'étais à Dulwich pour voir l'exposition « Twombly-Poussin ». Pourquoi la College Picture Gallery de Dulwich ? Dulwich est riche en œuvres de Poussin, ses conservateurs avaient pu en emprunter plusieurs de grande qualité à d'importantes institutions européennes. Pourquoi Twombly ? À cette question, L'artiste a lui-même répondu : j'aurais aimé avoir été Poussin si j'avais eu le choix en un autre temps. Les titres de certaines de ses toiles, Arcadia, Vénus et Adonis, Quattro Stagioni ou Narcissus, confirment cette vénération et cet amour pour notre plus grand peintre. Comme Poussin, Svitomli avait choisi l'exil à Rome. Comme lui, il rêvait à l'aide de ses seuls pinceaux de faire revivre un monde antique à jamais disparu. À l'image de celui de son modèle, le monde de Twombly est riche de références cryptées aux grands mythes de l'Antiquité, Mercure, Hercé et Aglaure, Apollon amoureux de Daphné, Bacchus et Ariane. J'avais pensé projeter sur les murs qui soutiennent notre vénérable coupole, comme j'avais pu le faire à l'occasion des célébrations hugoliennes de 2002, des reproductions d'œuvres de Svitomli. J'ai, à vrai dire, reculé et voulu éviter un sursaut à une partie de notre auditoire horrifié. Dois-je l'avouer, je ne suis pas un inconditionnel de l'œuvre de Svitomli et au risque de faire de la peine à mes amis de l'autre rive de la Seine, j'ai quelques réserves sur le récent plafond de la salle des bronzes grecques du Louvre. Le temps jugera. J'ajoute, pour faire bonne mesure, que je suis pleinement favorable à l'ouverture temporaire et en quelques cas définitive des salles du Louvre aux artistes contemporains, comme ce fut toujours le cas par le passé. Je me répète, je ne suis pas un inconditionnel de Svitomli, mais l'ambition du peintre est immense et sa sincérité, comme celle de la plupart des grandes vedettes de l'art contemporain de tous les horizons, qu'elles soient américaines ou allemandes, japonaises, italiennes, africaines ou parfois françaises, à mes yeux, indiscutable. Ambition souvent moquée, sincérité régulièrement mise en doute, mais qui, j'y reviendrai, l'une et l'autre appellent le respect. Me suis-je, dès mes premiers mots, égaré et éloigné de cette vertu que l'usage depuis fort longtemps veut qu'aujourd'hui on célèbre ? Cette vertu, je l'évoquerai, hélas, non pas sur un ton badin, comme sans nul doute vous l'espériez, comme je vous comprends, mais sur le mode grave. De tout temps, les peintres se sont interrogés. Comment eux, qui font profession de choses muettes, pour citer mon cher Poussin, peuvent-ils, grâce à leur seul pinceau, délecter et instruire, distraire et faire réfléchir ? Je sais bien que nombreux sont les artistes qui peignent pour le seul plaisir de nos yeux, Fragonard ou Bonnard, Francesco Guardi ou Monet, encore que, non moins nombreux sont les peintres dont on dit que les aspirations sont plus hautes, qui veulent faire penser. Je m'intéresserai ici à un groupe d'artistes qui me ramène à l'ordre du jour de notre séance, la vertu. Leur intention, à la suite de leur maître Louis David, par parenthèse, ce n'est pas à David, contrairement à ce que l'on répète régulièrement que l'on doit le dessin de notre beau costume vert, leur intention était de peindre des exempla virtutis, des exemples de vertu. Que souhaitaient-ils ? Quelles étaient leurs ambitions ? Tout d'abord, attitude classique, prendre le contre-pied de leurs prédécesseurs et réagir à l'art corrompu et dissolu des Boucher et autres Fragonards, imposer une nouvelle manière de peindre, moins libre, plus lisse, plus porcelainée, un coloris plus sombre, plus sobre, et une nouvelle manière de penser la peinture, de la penser avec plus de sérieux, avec moins de frivolité et de sensualité, avec la volonté de s'engager, je déteste ce mot, dans le monde de leur temps. Ils annoncent en quelque sorte le Picasso de Guernica et nos contemporains qui traite sans gaieté, c'est un euphémisme, de la guerre, de la Shoah, de la violence sous toutes ses formes, du colonialisme, des persécutions, de la mort, des menaces et des périls de toute nature qui pèsent sur notre monde. Un tableau fut le modèle de ces peintres. C'était un must, je vais me faire tirer les oreilles par la commission du dictionnaire, il était obligatoire pour tout visiteur qui se rendait à Rome de faire halte au Palais Barberini pour y admirer la mort de Germanicus de Poussin, que vous devriez voir sur vos écrans, c'est le cas, la mort de Germanicus de Poussin, le tableau conservé aujourd'hui au lointain musée de Minneapolis aux États-Unis, qui assura à l'artiste une renommée qu'il avait patiemment attendue et qui, depuis 1627, ne l'abandonna jamais. Que voyons-nous ? Un mourant est allongé sur un lit. Sur la droite de la composition, ses enfants, leur nourrice et sa veuve éplorée qui cachent son visage. À gauche, des soldats romains se tournent vers le lit de leur chef. Ils sont attentifs, émus, apitoyés. Certains sont en pleurs, d'autres s'interrogent. Chacun exprime son émotion telle qu'il la ressent. Le mourant pointe le doigt vers son épouse. Le récit est tiré des annales de Tacite. Tiberius Drusus Nero remporta en Germanie des succès militaires qui lui valurent le surnom de Germanicus. Ses victoires successives en Orient provoquèrent la jalousie de l'empereur Tibère. Empoisonné et se sachant perdu, Germanicus s'adresse à ses amis et à ses compagnons de guerre et leur fait jurer, je cite Tacite, qu'ils doivent renoncer à la vie plutôt que désir de vengeance. Germanicus se tourne alors vers son épouse, Agrippine, la suppliant, l'exhortant, je cite à nouveau Tacite, de dépouiller sa fierté, de plier son âme aux cruautés de la fortune. Agrippine, les soldats de Germanicus sont appelés à faire preuve de magnanimité, à accepter l'injustice et le tragique destin du sort. Le comportement de Germanicus devait nous servir de modèle, devrait nous servir de modèle et d'exemple, inspirer à notre tour notre comportement, nous régénérer. Le tableau qui assura en un jour la fortune de Poussin est aujourd'hui moins aimé, il a perdu sa popularité. Sa leçon édifiante ne nous touche guère. Pour citer Richardson Père en 1728, trop de personnes parlent en même temps. Poussin lui-même renonçant à ce genre de tableau trop déclamatoire, trop chargé d'intention, préférant dorénavant la fable et les mythes, il grande favoleggiatore, pour citer son ami Le Bernin. L'exemplum virtutis, à juste titre le plus célèbre de l'histoire de la peinture, est sans nul doute le serment des Horaces, que vous devriez voir sur l'écran. L'image est si connue, si forte, si lisible, que je n'aurais pas eu besoin de vous la montrer ici. Commande royale, l'œuvre fut généreusement payée 6000 livres à David. Peint à Rome, le tableau date de 1784. J'insiste sur cette date de 1784, une date qui n'est pas pour plaire à ceux qui projettent sur le David des années 1780 les idées qui seront les siennes en 1793. Sur la gauche de l'immense composition, devant une architecture classique, trois soldats casqués, Horace et ses frères se tiennent par la taille. Tous trois lèvent le bras et prêtent serment deux d'entre eux avec la main gauche, ce qui fut âprement reproché au peintre. Leur faisant face, leur père, le vieil Horace, drapé dans son beau manteau rouge, leur tend leurs épées. Relégués sur la droite de la composition, trois femmes éplorées, la mère d'Horace et ses petits-enfants, sa sœur Camille et sa belle-sœur Sabine. Rome et Albe sont en guerre. Pour mettre fin au conflit, les deux villes décident de faire combattre leurs plus vaillants guerriers, les Horace et les Curias. Or, Horace, vous le savez tous, mais notons-le, l'épisode retenu par David n'a pas été traité par Corneille, a épousé Sabine, sœur de Curias, et Camille, sœur d'Horace, est fiancée à Curias. Les Horace, c'est le moment choisi par David et inventé par lui, décide, exemplum virtutis par excellence, de servir leur patrie, de faire passer leur devoir avant leur vie privée et leurs sentiments personnels. Chez les quatre héros de David, le père et ses trois fils, je cite Robert Rosenblum dans les travaux sur les exempla virtutis de mère exemplaire, cet élan d'énergie morale envahit le corps et l'esprit depuis le regard déterminé que diffusent les têtes fièrement dressées jusqu'aux muscles tendus des bras et des jambes fermement assurés. Fin de citation. Les femmes sont harassées par la douleur, l'ardeur patriotique et farouche des hommes fait contraste avec le tendre accablement des femmes, opposition alors classique entre la force virile et la faiblesse féminine. Je n'insisterai pas sur l'impeccable facture du chef-d'œuvre, sur l'accord entre l'architecture et les figures, ni sur le coloris revivifié par une cure de caravagisme. Depuis les années 1750-1760, en Angleterre comme en France, un nouvel art de peindre cherche à s'imposer. Dès 1654, la Fonte-Saint-Yenne souhaitait que la peinture devienne une école des mœurs. Elle devait se consacrer à la représentation, je cite, « des actions vertueuses et héroïques des grands hommes, des exemples d'humanité, de générosité, de courage, de mépris des dangers et même de la vie, d'un zèle passionné pour l'honneur et le salut de la patrie. » Selon Diderot, qui songe bien sûr à Greuze, le but des arts est de rendre la vertu aimable, le vice odieux. Pour quasiment un siècle se succéderont les épisodes les plus obscurs de l'histoire antique et de l'histoire de France. Les Trajan interrompant son voyage pour rendre justice à une veuve malheureuse, les Marc-Antoine distribuant des vivres et des soins au peuple en proie à la famine et à l'épidémie, les Coriolan vaincus par sa femme et par sa mère, les Bélisaires réduits à la mendicité, secourus par un officier des troupes de l'empereur Justinien, ou, plus simplement, les continences de Scipion, les Cornélimères des Gracques, et bien sûr les morts de Socrate, les morts de Sénèque, les morts de Bayard et autres morts de Duguesclin. L'histoire de l'art voudrait, j'y reviendrai, que l'exécution de Maximilien de Manet 1867, une exécution en rien exemplaire, en rien stoïque, nullement héroïque et pas davantage une leçon de vertu, ait mis un terme à ce courant de la peinture européenne. Manet devançant en quelque sorte Gide, pour qui on n'écrit pas forcément de bons livres avec de bons sentiments. J'en aurai bientôt fini avec la fortune des exempla virtutis, mais j'aimerais me faire le plaisir d'une digression qui, si elle traite de la vertu, comme il est à cette heure obligatoire de le faire ici, nous éloigne considérablement de Poussin et de David. J'en dois les détails à un ami de Venise, Thomas Janglaise. Il s'agit des jardins ouvriers des vertus d'Aubervilliers. Depuis 1906, les glacis de l'ancien fort d'Aubervilliers, détruits par les Prussiens et la Commune en 1870-1871, sont occupés par des jardins ouvriers. Une société des jardins ouvriers des vertus a été créée en 1935. Mais pourquoi ces vertus? Elles rappellent le passé maraîcher d'Aubervilliers et les variétés légumières cultivées sur la plaine des vertus, choux de Milan des vertus, oignons jaune paille des vertus, navets pointus des vertus. Cette plaine doit son nom à l'église Notre-Dame d'Aubervilliers devenue des vertus en 1366 à la suite d'un miracle. Je n'ai pas visité les 84 parcelles individuelles, leurs cabanons et leurs jardins fleuris, fruitiers et légumiers à usage familier. Je me promets de le faire à la belle saison. Mais les photographies qui m'en ont été communiquées confirment le charme et le pittoresque d'un lieu qu'il serait vertueux que la ville d'Aubervilliers protège et mette à l'abri des convoitises immobilières. Vous conviendrez, mesdames et messieurs, qu'il ne m'est pas facile, après cette vertueuse escapade bucolique, de revenir à ces scènes héroïquement édifiantes, à ces leçons de vertu dont je vous entretenais à l'instant. J'évoquais l'exécution de Maximilien, cet anti-héros, ce contre-exemple de cet historicisme moralisateur, de ces morts héroïques qui se voulaient exemplaires. Mais la page de l'exemplum virtutis est-elle définitivement tournée ? En un sens, elle l'est si l'on oublie la peinture russe des années soviétiques et la peinture allemande du temps d'Hitler. Mais les artistes contemporains, qu'ils soient peintres ou photographes, qu'ils privilégient les installations, les performances ou la vidéo, n'ont pas renoncé à témoigner, à mettre en garde, à condamner. Si l'édification et l'inflexibilité ne sont plus à l'ordre du jour, et la vertu rarement vantée, l'idée que les arts, la peinture au sens large du terme, comme il faut aujourd'hui l'entendre, n'ont pas renoncé à jeter sur notre monde un regard critique et moralisateur, à nous mettre sous les yeux les exemples à ne pas suivre. Au même titre que la peinture néoclassique, la peinture contemporaine ne se prend pas à la légère. Si parfois elle se complaît dans l'abjection et la dérision, elle partage avec celle-ci une certaine forme de ferveur et de violence, et la volonté de condamner les dérives et les compromissions de toute nature. J'entends répéter que l'art est mort, que nous sommes les complices naïfs d'une gigantesque escroquerie montée par le commerce et la spéculation. Je n'ignore pas que l'abolition de toute règle, au contraire de ce qu'il en est pour les lettres ou pour la musique, a multiplié le nombre des artistes à qui tout paraît permis. Je sais bien que le déchet est considérable, bien plus considérable qu'il ne l'était par le passé, qu'il nous manque, comme par le passé, mais encore plus que par le passé, le recul du temps pour trier, pour juger, pour séparer le bon grain de l'ivraie, que pour une tentative prometteuse et parfois aboutie, il faut compter 10, peut-être 100 échecs, mais je ne peux me résoudre à croire que les dizaines de galeristes vertueux, que les centaines de collectionneurs sincères et convaincus, les milliers, les dizaines de milliers de jeunes qui se pressent à la FIAC, à la Biennale ou à la Documenta et aux expositions dites d'avant-garde, sont tous les victimes d'agioteurs sans scrupules, les gogos, je ignore si le mot figure dans notre dictionnaire, facilement ébloui, victime d'une immense supercherie. Les chaises électriques d'Andy Warhol, les feutres gris militaires de Joseph Beuys, le Boltanski, je cite, des peintures d'histoire et d'événements dramatiques, les saisons et les éléments écologiques chers à Bill Viola, l'expressionnisme angoissé inspiré par la récente histoire allemande d'Anselm Kiefer, la condamnation de la drogue par Cindy Sherman, les gris et les flous inquiétants de Gerhard Richter, les crânes diamantés de Damien Hirst, les condamnations politiques de Maurizio Cattelan, pour ne citer que quelques exemples qui ne se veulent en aucun cas, en aucune façon, un palmarès et dont je précise avec force que je ne les mets pas tous au même plan, au même niveau, sont autant de modernes exempla virtutis. Vous m'autoriserez une seconde question qui en fait n'en est pas une, tant la vitalité de l'architecture contemporaine me paraît comparable à celle des arts plastiques. Je sais bien que contrairement à ceux-ci, l'architecture obéit à un professionnalisme sans concession, à des règles strictes, plus strictes que jamais. Elle est florissante, l'architecture. Jamais depuis la Renaissance italienne n'a-t-on compté un nombre comparable d'architectes de génie en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique, en France également. Leur consécration passe obligatoirement, et je m'en réjouis, vous le devinez, par la construction d'un musée. Je me suis interrogé, notre compagnie ne s'honorait-elle pas en accueillant dans ses rangs les meilleurs d'entre eux ? L'art contemporain sait parfois être ludique, il sait aussi nous tirer de notre indifférence, nous faire réagir, et si séduit tant de jeunes et de moins jeunes, c'est que ces jeunes et ces moins jeunes se sentent impliqués. Ne parlons plus d'exempla virtutis, auxquels on a à juste raison souvent reproché leur caractère trop littéraire. À leur manière si différente les unes des autres, nos artistes contemporains, de même que leurs aînés, veulent faire réfléchir, ils veulent émouvoir, nous toucher, et à mes yeux, y réussissent. Lequel de ces artistes saura créer avec les moyens dont il dispose aujourd'hui un serment des Horaces, une mort de Marat, un serment des Jeux de Paume, le temps décidera. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. Vous avez tous été de parfaits exemples de vertu.
Cette rentrée solennelle de l'Académie française s'est tenue le 1er décembre 2011 sous la coupole de l'Institut de France. Retrouvez l'intégralité des discours tenus lors de cette journée, ainsi que le palmarès des prix littéraires décernés sur notre site canalacademie.com.